Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Un attroupement quasi insurrectionnel, c'est ainsi que le Figaro décrit ce lundi les incidents qui ont opposé avant-hier soir des jeunes du quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines à des policiers. Une bouffée de violence urbaine, écrit encore le journal. Du côté de l'AFP, l'agence France-Presse, le ton est moins lyrique. Il est question d'un guet-apens suivi d'échauffourées, cocktail Molotov contre grenade lacrymogène, d'un bâtiment administratif saccagé. Il n'y a pas eu de blessés. Alors ces incidents n'auraient sans doute pas rencontré le même écho s'il ne s'était pas produit un événement d'une toute autre gravité une semaine plus tôt, toujours en région parisienne, cette fois à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Des policiers pris pour cible par une centaine de jeunes gens aux abords de la cité de la Grande Borne, deux d'entre eux grièvement blessés, présents le surlendemain sur les lieux de l'attaque. Manuel Valls promettait toute la sévérité possible à l'encontre des agresseurs, ajoutant qu'il n'y avait pas de zone de non-droit en France. Alors, zone de non-droit, voilà une expression dont on ne sait pas très bien ce qu'elle signifie exactement, mais qui a fini par s'imposer dans le discours politique, policier et médiatique. Le plus souvent, elle sert à désigner des territoires en banlieue devenus difficilement accessibles aux forces de l'ordre. Mais peut-on la résumer à ce seul phénomène? Et d'ailleurs, y a-t-il des zones de non-droit? Eh bien, c'est la question que nous allons poser ce soir à trois invités. Sophie Baudy-Gendreau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, professeure émérite à l'Université Paris 4 Sorbonne, chercheuse rattachée au CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le Droit et les Institutions Pénales. Pour discuter avec vous, un magistrat, Didier Perra, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat général dans une cour d'appel de province. Vous avez été vice-procureur du tribunal de grande instance de Pontoise et vous avez dirigé le secrétariat général pour la coordination de la politique de la ville. Ce sont donc des questions auxquelles vous avez eu l'occasion à maintes reprises de vous confronter. Et puis notre troisième invité, c'est Amar Eni. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éducateur, chercheur en anthropologie. Vous avez fait une thèse sur Grigny, la Grande Borne, ce quartier donc que j'évoquais dans l'Essonne. Vous êtes par ailleurs membre de l'Observatoire international des banlieues et des périphéries, qui à l'origine était un observatoire franco-brésilien. Ce sera sans doute intéressant de faire quelques comparaisons entre ces zones de non-droit qu'on nous décrit en France et puis ce qui peut se passer au Brésil ou aux États-Unis, puisque c'est aussi le domaine de recherche de Sophie Baudy-Gendreau. Mais je voudrais qu'on commence par évoquer cette expression, peut-être sous son angle juridique. Zone de non-droit, Didier Perra, est-ce que ça a une quelconque valeur, une quelconque existence juridique, ou bien est-ce qu'on est purement dans de la formulation médiatique?
Je crois qu'on est plutôt dans une formulation médiatique. La zone de non-droit, ça n'est pas une notion qui existe dans le droit. Bon, maintenant, les professionnels du droit ont l'habitude, et c'est même leur métier, de se coltiner avec le non-droit, hein, la caractéristique des institutions qui essayent de promouvoir le droit, partant de l'idée que le droit a vocation à s'appliquer partout, c'est de s'affronter avec un réel qui n'est pas fait, heureusement, que de droit.
Est-ce qu'on pourrait trouver un équivalent, une autre formule, qui serait une zone hors la loi, c'est-à-dire où la loi ne serait pas respectée?
Si vous voulez, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de zones de droit, non de non-droit, pardon, chimiquement pures, si vous voulez. À chaque fois, il y a une interaction entre le droit et ce qui n'est pas le droit. Bon, partout. Zone hors la loi, non, moi je dirais plutôt des zones où le droit, en raison de circonstances, de dispositifs officiels et officieux qui se sont mis progressivement en place, des zones où le droit a souvent le dessous. C'est-à-dire que, la règle de droit, son application ne va pas de soi. Le droit, c'est pas la règle, parce qu'il y a plein de règles morales, civiles, qui régissent les interactions entre les individus. Le droit, c'est une règle particulière qui exprime la valeur fondamentale de la société et qui est sanctionnée par la puissance publique. Force est de constater qu'il y a un certain nombre d'endroits, aux États-Unis, au Brésil, et malheureusement, depuis quelque temps, ça commence à arriver en France, des zones dans lesquelles promouvoir le droit, c'est une sorte de bataille.
Alors des zones où la loi est en dessous, on pourrait d'ailleurs ajouter d'autres territoires. Je pense par exemple au Panama, qui a fait beaucoup parler de lui à travers les Panama Papers et ses paradis fiscaux, un des symboles des paradis fiscaux, qu'on pourrait qualifier de zone de non-droit. On avait fait aussi, il y a quelques mois de cela, une émission consacrée au Darknet, c'est-à-dire l'Internet un peu sombre, où existent notamment des sites, il y en a un qui a fait beaucoup parler de lui, de Silk Road, la route de la soie, où on peut, c'est un site d'échange un petit peu comme le Bon Coin, sauf qu'on peut y acheter des armes, de la drogue, qu'on peut y acheter des faux papiers. Bien entendu, aujourd'hui, quand on parle de zones de non-droit, spontanément, Sophie Baudy-Gendreau, on ne pense pas à ces zones-là, mais on pense avant tout quoi? Zones urbaines sensibles, je ne sais pas comment, quel est le terme qu'il faut retenir.
Oui, qui aspire la crainte. Mais où j'irais, où même le droit étant si peu connu, on a dû créer à l'usage des habitants des maisons du droit, aller dans les écoles, expliquer aux enfants ce qu'était le droit et leur montrer que le droit les protégeait, et où ils posent des questions comme est-ce qu'on a, on doit se faire racketter. Ils ne savaient pas que bon, c'était totalement hors la loi. Donc c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans une volonté de circonvenir la loi, mais on ne la connaît pas.
Alors ça, c'est intéressant déjà pour définir une zone de non-droit, c'est-à-dire un endroit où on ne connaît pas bien le droit, on ne connaît pas bien la loi. Amar Eni, est-ce que vous, à travers votre expérience, vous partagez ce constat de quartier où on connaît mal finalement les droits, où on ne sait pas vraiment ce qu'est la loi, de quelle manière elle peut intervenir? Ou bien est-ce qu'au contraire, ce sont des quartiers où la loi peut-être est omniprésente parce qu'elle est vue sous un côté plus répressif peut-être qu'ailleurs?
Pour moi, je voudrais prendre une précaution oratoire avant, parce que cette question de zone de non-droit est très sensible, surtout pour les auditeurs qui ont vécu des maltraitances, des violences. À un moment donné, c'est compliqué. Je voudrais pas que mes propos soient mal interprétés. Effectivement, il existe dans des quartiers des situations d'une extrême violence. Et on peut pas le nier, c'est une réalité, donc il faut l'accepter en tant que telle. Cependant, zone de non-droit, pour moi, le mot, pour moi, est corrompu. Je vais essayer d'être clair. Il est corrompu parce qu'il invite, il convoque, en réalité, d'abord il convoque des tensions entre des intellectuels, déjà d'une part, et il convoque une idée où il y aurait des lieux qui seraient exclusivement gérés par des délinquants, et plus particulièrement par des gens de confession, pour des gens issus de l'immigration. Et en réalité, tous ces termes-là, déjà, en eux-mêmes, ils mériteraient d'être approfondis, parce qu'ils ne correspondent pas à grand-chose à mon sens. Donc sur la question...
Ça veut dire qu'utiliser cette notion, pour vous, c'est déjà partir d'un a priori qui n'est pas forcément un a priori vérifié.
Bien sûr. Non seulement il n'est pas vérifié, mais en plus j'ai la conviction, enfin c'est plus que ça, au travers de mes recherches, et il est totalement faux. C'est totalement faux. C'est inexact. Je veux dire, vous parliez tout à l'heure de la Grande Borne. Bien évidemment, vous avez raison de dire que les gens ne connaissent pas le droit, mais il n'y a pas que dans les quartiers qu'on ne connaît pas le droit. Je veux dire, on peut aller dans le monde rural, on peut aller un peu partout. La question du droit est difficile. J'avais ramené là, mais ce sera l'occasion d'en reparler la prochaine fois. Nous, dans un cadre de travail, on avait fait, pour apprendre le droit aux enfants, dans les collèges et tout, on avait écrit un livre avec les jeunes, justement, de Grigny. Un livre qui s'appelle « Ado ambassadeur de la loi ». Je vous lirai tout à l'heure. Donc la question de la loi et du droit, bien évidemment. Après, pour moi, zone de non-droit, ça convoque d'autres choses. Ça convoque ghetto. Qu'est-ce que ça veut dire ghetto? Moi, pour moi, je suis plutôt de ceux qui pensent comme Loïc Vacan, qui considèrent que ce sont plutôt des lieux diffamés. Après, ça convoque, je vous disais tout à l'heure, issue d'immigration. On dit un désengagement de l'État. Moi, je pense que c'est totalement faux. L'État est très présent dans les quartiers. Et alors, c'est pas l'État que j'aurais aimé, mais il y a un État. Et donc, alors peut-être il manque des enseignants, il manque des choses, mais ce n'est pas... C'est pas ça.
Alors justement, si vous voulez bien tous les trois, une des manifestations de l'absence, ou plutôt là en l'occurrence de la présence de l'État, pour essayer un petit peu de voir aussi comment on peut comment se manifestent ces zones de non-droit dans la façon dont on les perçoit, et de l'extérieur et de l'intérieur, parce qu'il faut pas oublier non plus que les habitants de ces quartiers peuvent aussi se sentir comme résidents de zones de non-droit. Mais il y a une des premières manifestations qui est celle de la police, et c'est finalement sans doute celle à laquelle on pense en priorité lorsqu'on parle de zones de non-droit, c'est-à-dire des zones où la police soit ne pourrait pas du tout intervenir, soit en tout cas pourrait extrêmement difficilement intervenir. Est-ce que de ce point de vue-là, on peut dire qu'aujourd'hui des zones de non-droit existent en France, Didier Perra?
Je pense qu'il y a des endroits où la police a du mal à intervenir. Bon, Mais si vous voulez, bon, moi je serais pas aussi sévère que Monsieur Henny avec l'expression, parce que on peut discuter de l'expression. Je suis pas sûr qu'elle soit stigmatisante en elle-même, si vous voulez. Mais derrière l'expression, il y a des réalités. Et après, il faut essayer de tomber d'accord sur ces réalités. Et puis ensuite, on trouve les termes qui sont adéquats. Bon, quand vous avez quand même des quartiers dans lesquels, non seulement la police, parce que vous parlez tout de suite de la police, mais il n'y a pas qu'un problème de police. Il y a aussi un problème de médecins, de cabinets médicaux qui sont obligés de fermer et qui sont pas chassés par les habitants, bien sûr. Hein. Y a un problème pour les services de secours, les sapeurs-pompiers, dans un certain nombre de quartiers. On le sait, c'est une réalité et c'est relativement nouveau à l'échelle, en tout cas, que ça a pris ces dernières années en France. Bon, donc, moi, zone de non-droit, l'expression ne m'enchante pas non plus, hein, je crois qu'il y a des endroits dans lesquels, finalement, on fait l'expérience de quelque chose auquel on n'était peut-être pas intellectuellement préparé, c'est une certaine faiblesse de l'État. Et pas un État omnipuissant, omniprésent, comme on l'avait peut-être imaginé et redouté. Les deux choses peuvent se combiner d'ailleurs. Hein. Il peut y avoir un État
Il peut être trop présent, faible, c'est ça ?
Et puis aussi un État qui est faible. L'expérience des zones de non-droit, pour moi, c'est l'expérience dans certains endroits de France, à la fois de la fragilité du droit et de la faiblesse de l'État.
Ce qui m'amène à dire que si on dit qu'il y a une faiblesse de l'État, on voit bien que c'est un problème multicausal, multidimensionnel. Pourquoi est-ce qu'il y a une faiblesse de l'État ? Quelle est la raison de ce désinvestissement de l'État ? Alors, on sait, si on parle des États-Unis, on sait très bien que la division raciale continue à faire beaucoup de sens et que des quartiers qui étaient justement avec tous les services, à partir du moment où les populations majoritaires quittent ces lieux, sont remplacés par des minorités raciales, ben immédiatement, les services disparaissent. Et c'était des quartiers qui, 20 ans après, Ferguson, par exemple, en 10 ans, un quartier bascule d'une population majoritaire blanche à noire, et d'un seul coup, vous n'avez plus les services qui étaient là avant. Donc, faiblesse de l'État, mais aussi lecture. Moi, j'aurais bien dire que zone de non-droit, c'est une lecture, c'est une construction. On construit et on parle d'autre chose en même temps.
Amarini ?
Oui, moi, je partage, tout à fait. Ce que vient de dire Madame Baudigendreau, oui, c'est une lecture. Et après, je me permets d'insister sur l'idée. Je comprends qu'on puisse, ça puisse être dérangé, mais quand on dit zone de non-droit, on assigne une population, on la montre. C'est pas qu'une question de stigmatisation. Hein. Je veux dire, on a construit autour de ça. On parle de lecture. On a construit des catégories. Je veux dire, je vais prendre un exemple tout bête. Issu de l'immigration, ça correspond à quoi ? J'ai 55 ans. Je veux dire, mon père est kabyle, ma mère était française. Mais aujourd'hui, je suis toujours quelqu'un issu d'immigration. Je suis pas considéré comme français. C'est pas vrai. Et ensuite, en analysant zone de non-droit, permet simplement deux choses, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on identifie des populations et on racialise. Et c'est-à-dire, en racialisant, on dit, le problème, c'est les habitants. Parce que les habitants, les gens dont vous dites qu'ils commettent des bêtises, des crimes, même pour certains, je veux dire, à un moment donné, ils sont pas majoritaires. Hein. Mais quand on parle de zone de non-droit, on assimile tous les habitants dedans. Peut-être pas vous, mais dans les médias, mais partout, même ailleurs, il y a un émetteur, il y a un récepteur. On montre toujours les mêmes choses aux gens. Grigny, avec les attentats de janvier 2015, il y a eu tous les projecteurs qui se sont posés sur les habitants. Il y a même des élus politiques, gouvernementaux, qui ont dit le terrorisme naît de Grigny. C'est un scandale quand même. Comment les habitants peuvent vivre cela ? Donc il y a une réalité. Zone de non-droit implique cette vision au monde.
Je voudrais dire que la société choisit ses peurs. Et ce qui m'a sidéré, je faisais une petite recherche hier pour préparer cette émission, et je regarde États-Unis, zone de non-droit, et qu'est-ce que je découvre ? Que depuis 2015, à ce mot, non-droit est associé musulman. Pour les Américains, maintenant, une zone de non-droit, c'est associé à un lieu où les musulmans sont concentrés. Alors, vous dites, n'allez pas à Dearborn, Michigan, n'allez pas là. Alors que ça a été très longtemps le lieu où les Africains-Américains étaient concentrés. Eh ben non, vous voyez, en l'espace de 2 ans, phénomène de mode, choix d'une nouvelle peur, les musulmans.
Didier Perra.
Oui, enfin, je crois qu'il ne faut pas faire trop dire aux mots de choses. Hein. Zone de l'endroit en soi, ça n'est pas une notion qui stigmatise tous les habitants des quartiers ou qui racialise, comme vous venez de le dire, les populations dans leur ensemble. Il y a des usages de la notion qui peuvent aboutir à ça. Ça me rappelle quand même beaucoup les débats d'il y a 20 ans sur la question de la sécurité. Il y a 20 ans, il y avait, quand un certain nombre de gens essayaient de convaincre, par exemple, la gauche, que les questions de sécurité devaient être prises au sérieux, que c'était pas un problème à écarter d'un revers de la main, mais il y avait plein de gens qui nous disaient « Ah, mais la sécurité, c'est quelque chose qui est corrompu en soi. » Non, la sécurité, il y a un droit à la sécurité, il y a un besoin de sécurité, il y a une demande de sécurité. On peut utiliser la sécurité comme prétexte pour ouvrir des perspectives politiques et sociales désastreuses, bien entendu, hein, mais on peut aussi faire d'autres usages de la sécurité. Zone de non-droit, qu'est-ce que ça veut dire ? Zone de non-droit, ça renvoie à une réalité qui n'est pas celle de tous les quartiers défavorisés, d'ailleurs, qui est que existe un certain nombre de territoires dans lesquels, à la place de la règle de droit, et notamment l'un des droits importants, c'est le droit à la sécurité, sont venus se substituer, non pas un vide, mais d'autres règles. Si vous voulez, le droit, c'est pas la règle. Il y a des règles morales, civiles, etc. Mais il y a des règles injustes qui peuvent se substituer quand le droit n'arrive plus à se faire valoir. Bon. Et ça, la majorité des habitants de ces quartiers en souffrent. Voilà. Pour moi, la zone de non-droit, c'est un endroit de ce genre.
Alors justement, j'allais aller sur cette question de la souffrance, parce que quand on parle effectivement de zone de non-droit, en tout cas quand on n'est pas à l'intérieur de ces quartiers, on le voit plutôt comme des quartiers dans lesquels on peut difficilement, voire absolument pas pénétrer. Mais du point de vue des gens qui vivent dans des quartiers où la sécurité, ou en tout cas où le sentiment d'insécurité peut être extrêmement fort, est-ce qu'ils ne se vivent pas, là justement à Marigny, comme des habitants vivant en zone de non-droit, c'est-à-dire là où l'expression pourrait trouver peut-être une valeur plus juste à vos yeux?
Bien sûr. Sur la question des habitants qui vivent régulièrement l'impunité, parce que là, dans ce que j'entends, il y a deux choses différentes. Il y a l'idée que les habitants n'ont pas, enfin, on pourrait avoir le sentiment de ne pas avoir les mêmes droits, ce qui est une réalité. Bon, il y a des endroits où, enfin, des lieux où n'ont pas les mêmes droits. Enfin, en théorie, oui, en pratique, il n'y a pas les mêmes droits qui s'opèrent pour eux. Ça, c'est, pour moi, c'est évident. Ensuite, sur la question de sécurité, pour moi, monsieur disait que sécurité, il y a 20 ans, on avait le même débat. Sauf qu'aujourd'hui, le débat qu'on n'a pas, c'est sur sécuritaire. Et pour moi, sécurité, tout le monde vise à l'idée de la sécurité. Moi, je suis d'accord pour que tout le monde ait droit à la sécurité, que les habitants soient protégés. Et dans ce cadre-là, il faut, pourquoi, dans des quartiers comme celui-là, et je vous rejoins un peu, pourquoi il y a des situations qui ne sont pas élucidées ? Pourquoi on laisse des lieux où les gens vendent de la drogue et puis tout le monde passe et comme si c'était quelque chose de banalisé ? Ceci est inacceptable pour les habitants, ils en souffrent, puis ça a des conséquences. Alors, arrêtez de dire ça. Et sécuritaire, je me permets de rebondir sur sécuritaire, parce que pour moi, sécurité et sécuritaire ne sont pas les mêmes notions, sont quelque chose qui sont disjoints. Et on voit bien que dans ce qu'on met en place, parce que toujours avec l'idée de zone de non-droit, on met en place des nouvelles lois, il suffit de regarder les lois Perben, les lois Sarkozy, il y a eu beaucoup de lois qui ont été mises en place, ça, sur la question des enfants et tout. Et à partir de là, il y a tout un système de représailles qui se met en œuvre, mais on n'est pas dans la sécurité, on est dans autre chose là, et ça mériterait d'être réfléchi. C'est en ce sens-là que je dis, moi je suis pour la sécurité de tous les gens. Mais là, ce qu'on met en place avec zone de non-droit, on met en place des textes de loi qui vont appliquer sur tout le territoire national.
Mais à Marigny, pour que l'insécurité puisse être combattue correctement, encore faut-il que ceux qui ont la charge de cette sécurité puissent intervenir dans de bonnes conditions. Je voudrais juste vous faire écouter le témoignage de deux syndicalistes policiers. C'est très court, hein, SGP Police et Alliance. Témoignage recueilli par France Info il y a quelques jours de cela sur les difficultés à intervenir, en tout cas intervenir seul dans certains quartiers.
L'hostilité envers les forces de l'ordre, elle est de plus en plus marquée, de plus en plus grave, avec des blessés et avec vraiment des guet-apens qui sont organisés. C'est insupportable, franchement, pour tous les collègues.
Aujourd'hui, c'est impossible pour deux ou trois policiers d'aller procéder à un contrôle dans une cité sensible. C'est impossible. Si on y va à 25, bien sûr qu'on va contrôler et qu'on va dominer la cité, ou si on y va à 25, même plus. Mais aujourd'hui, à trois policiers, faire un contrôle dans les Tarteries ou dans une cité marseillaise style la Castellane, c'est absolument impossible.
Alors Didier Perra, vous disiez tout à l'heure à juste titre, hein, il ne faut pas résumer à l'intervention de la police cette question de la présence des forces publiques dans ces quartiers, mais la question de l'intervention de la police est quand même importante. Sophie Baudy-Gendreau, est-ce qu'un des problèmes, ça n'est pas justement le fait que, comme les policiers ou comme les pompiers ne peuvent pas intervenir de manière, disons, tout à fait normale, comme ils le feraient dans d'autres zones, ils sont obligés de presque d'entrer par effraction dans ces quartiers, et du coup ça donne une présence policière qui est peut-être disproportionnée dans sa manière d'intervenir, dans sa manière d'agir.
Non, mais déjà, quand vous regardez l'architecture de certaines cités, vous vous souvenez du début de West Side Story, ce long sifflement dans la nuit. Bon, ben, on est là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une seule route d'accès à cette cité et la police, finalement, peut être tout à fait repérée dès le départ par des bandes qui sont à l'entrée de la cité et qui vont prévenir les autres et tomber effectivement dans une embuscade. Moi, j'ai été longtemps pendant 5 ans à la Commission nationale de déontologie sur la sécurité. Donc, on avait des plaintes d'habitants qui nous saisissait et qui disait on a appelé la police et on nous a répondu on n'intervient pas à chaud. Alors c'est vrai que ça peut être choquant si on a un modèle universaliste du service public, mais on comprend ces policiers, ils ont souvent des voitures qui sont pas en très bon état, ils sont pas assez nombreux, ils peuvent recevoir un frigidaire ou une machine à laver du haut des toits. Bien entendu, on peut très facilement faire des guet-apens, d'où une nouvelle architecture qui va changer cette voie d'accès qui était totalement un piège pour la police.
Sur cette question de la difficulté d'accès de certains quartiers pour la police, Didier Perra?
Elle est indéniable, elle est favorisée dans certains cas par une architecture urbaine qui est désastreuse. Mais enfin, on peut constater aussi que même dans des cités parfaitement rénovées où des milliards ont été engouffrés, où on a évité de construire des barres d'immeubles, les mêmes problèmes peuvent exister.
Oui,
bon, la question, c'est la question de l'incrustation d'une certaine criminalité dans des immeubles, des quartiers, criminalité qui fait peser un poids sur la masse des habitants de ces quartiers, bien que peu de gens participent activement.
Mais criminalité qui est connue et qui peut être ressentie par les habitants comme une forme d'abandon, justement.
Il y a 15 ans, j'ai conduit une étude sur la sécurité dans le logement social à la demande de Marie-Noël Lindemann. Bien, et on avait repéré trois types de quartiers d'habitat social. Des quartiers d'habitat social où l'insécurité était la même qu'ailleurs, où les gens d'ailleurs étaient très attachés à leur quartier, le faisaient vivre avec un dynamisme, etc. Des quartiers intermédiaires où l'insécurité commençait à monter et à poser préoccupation aux habitants et à faire partir un certain nombre d'habitants. Et puis, des quartiers, environ à l'époque un tiers des quartiers d'habitat social, dans lesquels l'insécurité avait créé une ambiance extrêmement pénible qui modifiait toute la donne. Parce que quand un gang, parce qu'il y a des gangs en France, quand un gang, même s'ils n'ont pas la taille, l'ampleur de ceux qui existent aux États-Unis depuis plus longtemps, quand un gang s'incruste dans un quartier, vous ne pouvez plus faire de travail social. C'est-à-dire que les locaux sont cambriolés, les éducateurs sont pas toujours bien accueillis. C'est quelque chose qui fait dysfonctionner l'ensemble des services et des actions qui peuvent être menées. Donc, par rapport à un gang comme ça, moi je dis, il faut assumer d'être sécuritaire. Il faut le démanteler, le gang. Voilà, il n'y a pas de négociation avec un gang. Il faut le démanteler. Alors, il faut aussi lui ôter du grain à moudre, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut en même temps conduire des politiques d'habitat social, des politiques d'accès aux droits offensives. Il faut évidemment éviter tout amalgame entre les uns et entre les autres. Mais le gang, il faut faire du sécuritaire.
Est-ce que ça, c'est pas un discours qu'on n'entend pas suffisamment, discours provenant de ces quartiers, de ce que vient de nous décrire Didier Perra, à Marigny, à savoir, bah oui, l'insécurité, ça nous empêche aussi, nous, de travailler, ça nous empêche de nous sentir bien, ça nous empêche de mener un certain nombre d'actions, notamment d'actions sociales, et c'est aussi ce qui explique le fait que, bah, peut-être la loi républicaine est moins bien représentée ou beaucoup plus mal représentée qu'elle ne l'est ailleurs.
Monsieur Perra disait tout à l'heure, il y a un nouveau lexique, un nouveau code qui s'est constitué à l'intérieur des quartiers. Et il faut le reprendre, la genèse. À partir de quand ça s'est passé? Donc il faudrait le reprendre. À mon avis, il y a eu quelque chose qui s'est passé dès les années 90. Dès les années 90, il y a eu une politique des grands frères qui s'est mise en place. On a chassé tous les éducateurs et on a pensé que les grands frères allaient remédier aux problématiques qui s'étaient existées là-dedans. Et petit à petit, de par l'expérience que j'ai vu beaucoup l'ensemble des travailleurs sociaux quitter le terrain, effectivement, parce qu'ils avaient peur, parce qu'il y en a qui se faisaient agresser. Et puis, s'il suffit de regarder les formations ne sont pas du tout adaptées sur la question du besoin que nous avons, besoin sur le terrain. Et une chose aussi qui est importante, on parle toujours, quand j'entends parler les politiques, on parle d'éducation à l'intérieur de l'école. Moi, j'aimerais qu'on parle d'éducation en dehors de l'école. Et je pense que c'est possible. Nous, par exemple, dans les endroits où je travaille, je peux vous garantir qu'on a mis des choses en place avec des gens qu'on pensait irrécupérables et qu'on a fait.
Donc, quel genre de choses?
Par exemple, ce que je vous montrais tout à l'heure, de Ambassadeur de la Loi, le livre, par exemple, on a mis en place, sur la ville de Grigny, il y a un dispositif d'insertion qui s'est mis en place qu'on appelle Trait d'Union. Il s'agissait d'aller chercher des jeunes dans des halls d'escalier ou dans des ce qu'on nomme des fours, c'est-à-dire des lieux de vente. Et il n'y avait pas de discussion possible. On mettait en place tout un travail, contact avec l'entreprise, accompagnement, et ainsi de suite. Et moi, je pense que quelqu'un qui rentre en prison, c'est quelqu'un qui va sortir. Comment on prépare? Il y a tout un système qui, aujourd'hui, depuis les années 90, n'est plus mis en place.
Et c'est un travail qui peut se faire en collaboration, notamment avec la police.
Bien sûr. Par exemple, quand il y a eu les incidents dernièrement sur Grigny avec les policiers qui ont été agressés, je vous disais tout à l'heure, la majorité des habitants ont condamné fermement les choses. Ça a été d'une violence énorme. Les gens n'ont jamais compris. La plupart des habitants sont d'accord avec les policiers. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est quand il y a des dérapages, mais on met les policiers dans une telle situation où on oppose des jeunes avec des policiers. Ça ne marche pas. On oppose des groupes ensemble. Et ça devient compliqué.
On a énormément d'expériences positives. On n'en parle pas assez. Exactement. De ce qui marche. Mais il y a justement beaucoup de partenariats intelligents qui ont été faits entre des écoles et des centres sociaux qui s'occupent des jeunes en dehors de l'école. Simplement, il n'y a pas de cohérence. Il suffit qu'un nouveau préfet qui reste généralement 2 ans arrive. Il va couper les fonds alors qu'une expérience passionnante qui s'était mise en place. Et on y met fin parce qu'il n'y a pas eu de continuité. Là où j'ai vu des choses qui marchaient, entre autres aux États-Unis et au Brésil, c'est quand il y a une continuité, quand il y a des gens qui restent 6 ans. Ces temps-là, qui connaissent les habitants, mais avec des gens qui partent tous les 2 ans. Il y a des fois où il y a 70% des enseignants qui demandent leur changement au bout de 18 mois. Comment voulez-vous travailler pour, comment voulez-vous que les habitants aient confiance? Ça, c'est ce que je veux dire. Et je voudrais dire aussi qu'il faut rémunérer correctement la main gauche de l'État, que ce sale boulot soit bien payé si on veut la paix sociale. On ne peut pas à la fois demander à des éducateurs d'être sur le terrain et les payer à coups de lance-pierre.
Ce phénomène de turnover important, on le constate aussi dans le domaine de la justice, Didier Perra?
Moins dans la justice que dans la police, mais c'est une réalité. C'est vrai qu'une des raisons de la faiblesse de l'État, c'est le fait que les gens se découragent, manque de formation, d'encouragement, de récompense au sens noble du terme pour un travail qui est le plus difficile, parce que voilà, les institutions de la République qui sont imparfaites sont confrontées dans ces quartiers aux problèmes les plus aigus de la société française. Bon, moi ce que je voulais rappeler aussi, c'est que il y a eu effectivement beaucoup de travail positif et il y a eu quelque chose de catastrophique, c'est la suppression de la police de proximité. Si vous voulez, c'était imparfait. D'ailleurs, à l'époque, ceux qui étaient pour la police de proximité, dont moi, se faisaient traiter de sécuritaire. Oui, ça allait être quelque chose... Bon, la suppression, l'abrogation progressive de 2002 à 2012, et même encore maintenant, il n'y a pas vraiment une police de proximité. Ça a duré 3-4 ans. Il y a des choses très intéressantes qui pouvaient être faites. Et ça commençait à modifier... le rapport des habitants à leur police, c'était quelque chose de très prometteur. Ça, alors, on l'a cassé.
Là, aujourd'hui, ça supposerait une vague de recrutement extrêmement importante, parce que la police, elle est mobilisée sur des questions qui sont en dehors des problématiques de ces quartiers. Enfin, les questions de lutte contre le terrorisme. Remettre de la police de proximité, ça voudrait dire créer énormément de postes de policiers, j'imagine.
Oui, on paye aussi le fait qu'il y a quand même, c'est quand même un paradoxe. Si vous voulez, il y a moins de policiers maintenant qu'il y a 10 ans. C'est quand même extraordinaire. Alors que la violence, la délinquance n'ont pas reculé, loin de là. Donc, il y a des émergences comme ça. L'État aurait dû se transformer pour épouser mieux les contours de la société compliquée dans laquelle on est et pas apparaître comme toujours en extériorité par rapport aux habitants. Mais je rappelle quand même même. Hein. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas que la déconstruction sémantique de la notion de zone de non-droit nous fasse oublier les réalités très dures que cette notion cherche à recouper. Enfin, bon, ces émergences, à l'époque, elles ont été présentées comme, ah ben voilà, c'est l'État qui veut s'occuper des quartiers, qui veut tout légiférer, tout régenter. Bon, et la police de proximité n'avait pas bonne presse, hein, notamment dans les rangs de la gauche.
En tout cas, on peut dire que l'analyse sémantique de cette expression, ça permet d'aller vers davantage de complexité que la façon dont, en général, on l'utilise.
Sophie Maudit, en France, une police centralisée qui répond à l'État. Dans d'autres pays que j'ai étudiés, la police agit avec le consentement des habitants et c'est une police qui rassure. Et dans des quartiers très ghettoisés sur lesquels j'ai travaillé aux États-Unis, on a le phénomène de ce qu'on appelle le Koban. Le Koban, c'est un phénomène japonais où le commissariat est installé au pied du grand ensemble. La police est là 24 heures sur 24. Et les habitants déprimés, surtout les mères de familles monoparentales qui ne savent pas trop quoi faire avec tous leurs enfants, savent qu'à tout moment, elles peuvent trouver une porte ouverte et parler avec ces policiers qui agissent comme des sortes de mentors, de tuteurs pour des jeunes qui n'ont pas de père et policiers qui savent aussi sévir quand il le faut. Mais disons qu'il y a une confiance qui est créée. Les policiers sont volontaires et ils disent, quand je les interviewais, on rend à la société ce que nous avons reçu d'elle, c'est-à-dire que maintenant nous sommes policiers, faisons partie des classes moyennes.
Mais parce que ce sont peut-être des policiers qui sont issus de ces quartiers.
Oui, et nous voulons aider ces jeunes à s'en sortir.
Mais il y a quelques années, il y avait eu des tentatives quand même pour que la police française ressemble aussi à la population dont elle s'occupait. Bon, manifestement, ça n'a pas toujours très bien fonctionné. Amarini.
Oui, on dit plus de policiers. Moi, je voudrais dire plus d'éducateurs. Pourquoi plus de policiers? Et je veux dire...
La police de proximité avait une fonction aussi éducative.
Ah non, et une fonction éducative. Mais ce n'est pas des éducateurs. Les missions sont totalement différentes. Plus d'enseignants. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les uns et les autres. Il faut arrêter de compartimenter les choses. Il faut trouver pour qu'il y ait une cohésion entre les uns et les autres. Mais la police, elle a une mission. La magistrature, elle en a une autre. Les éducateurs en ont encore une autre. Il faut trouver le moyen de se rencontrer, de se parler, de faire quelque chose ensemble.
Et puis, il y a les adultes.
Et puis, il y a les adultes. Et par exemple, vous parliez... Pour avoir été au Brésil et avoir travaillé avec des gens sur le Brésil, dans des quartiers, dans des favelas, à un moment donné, il y a aussi, par exemple, l'université, elle joue un rôle important vis-à-vis des jeunes dans les favelas. Il y a des gens qui vont les chercher. On met en place tout un système pour que les enfants puissent repartir à l'école, par exemple. Il faut savoir aussi, à Porto Alegre, il y a tous les 3 ans, il y a une élection, il y a quelqu'un qui est élu pour le défenseur des enfants, au travers d'une collectivité. Il y a des expériences avec lesquelles... On aurait intérêt à se servir, je dirais. C'est des choses très importantes.
Bon, si je vous écoute l'un et l'autre, là, Amar Eni et Sophie Baudy-Gendreau, il vaut mieux vivre dans des quartiers sensibles au Brésil ou aux États-Unis plutôt qu'en France.
Non, il y a le meilleur et le pire. Quand on parle du meilleur, c'est vraiment extraordinaire.
J'exagère.
Mais il y a tellement le pire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce service public qui est quand même distribué sur le territoire français. Vous avez le meilleur des zones tout à fait exceptionnelles où des habitants se prennent en charge et sont tellement innovant, mais à côté, des lieux où il ne se passe rien, parce qu'il n'y a pas de service public.
Et puis justement, pour répondre là aussi, par exemple au Brésil, il y a un dispositif qui s'appelle le Pronachi. Le Pronachi, c'est un dispositif très sécuritaire. Et il faut voir la façon dont on dit que c'est la BOPE, c'est une police de pacification dans des favelas. Il faut voir comment les gens sont traités, comment ils sont humiliés, comment on les maltraite. Et moi, je pense, à un moment donné, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, parce que ce n'est pas le lieu, puis ce serait trop long. Encore une fois, je ne voudrais pas être mal compris, je suis pour la sécurité. Mais je pense que le sécuritaire, ce n'est pas simplement l'extension de lois plus répressives. Le sécuritaire, c'est une autre façon, c'est une autre posture de l'État, et avec laquelle on n'a pas discuté. On ne discute pas, on ne réfléchit pas sur ce que c'est.
Le danger des zones de non-droit, c'est que si le service est défaillant, les gens vont prendre les choses en main eux-mêmes. Et là, on aura le pire du vigitant,
l'antisme,
le pire des milices, que j'ai vu aussi au Brésil. Et ça, c'est ce qu'on doit éviter à tout prix.
Est-ce que ça n'illustre pas le fait, Didier Perra, qu'en France, on a toujours autant de mal avec cette question sécuritaire, c'est-à-dire à faire un débat qui soit un peu apaisé plutôt que d'en faire une ligne de clivage forte politique, même si on sait que depuis quelques années, la gauche aurait fait sa révolution sur le sujet.
Écoutez, moi, je pense que sur la sécurité, il y a eu des évolutions importantes quand même. On n'a pas exactement, en tout cas avec autant de personnes, le même débat qu'on avait il y a 20 ans où on se faisait traiter quasiment de fasciste parce que on expliquait que la sécurité c'était un besoin anthropologique fondamental de l'être humain et que par conséquent les gens qui vivaient en état d'insécurité ils étaient très mal et ça allait finir par s'exprimer politiquement. Voilà le discours que certains tenaient il y a 20 ans et je pense que les faits malheureusement leur ont donné raison. Maintenant moi ce que je voudrais dire puisqu'on parle de zone de non-droit. Une petite réflexion sur la place du droit dans la société. On fait une expérience qui est, à mon avis, inédite dans l'histoire de l'humanité avec ces énormes ensembles urbains, au Brésil, au Mexique, en Europe. C'est l'expérience de la complication et de l'hétérogénéité. Et si vous voulez, bien sûr, les gens n'ont pas forcément besoin de droit pour régler leur relation à l'autre. Il y a des normes civiles, des coutumes, des usages qui permettent souvent que ça se passe bien.
Voilà, par rapport, on est entre collègues, bon. On ne fait pas forcément appel au droit pour bien vivre
sûr,
ensemble.
Bien sûr. Mais si vous voulez, y a quand même besoin, me semble-t-il, d'une référence commune. Et dans une société démocratique, cette référence commune, ça peut pas être quelque chose qui est occupé par la religion. Les religions ont leur place et peuvent contribuer d'ailleurs à la construction du commun. Mais il faut une référence et je ne vois pas d'autre outil que le droit pour constituer cette référence. Parce que le droit cristallise les valeurs fondamentales de la société et il y a donc une éducation au droit à faire. C'est-à-dire que une éducation à l'antiviolence, parce que le droit c'est en principe le contraire de la violence. Bon, donc il y a quand même à travailler sur des repères, des références qui seraient visibles et partagées, quelle que soit l'hétérogénéité des situations particulières, si vous voulez. Or, dans les quartiers dont on parle, tellement abîmés parce que ce sont devenus, à mon avis, des zones de non-droit, cette référence est tombée, elle n'existe plus. Il y a même plus ce repère. Qu'est-ce qui est le droit, qu'est-ce qui n'est pas le droit, les exemples que vous citiez tout à l'heure.
Peut-être Didier Perra, que si ces références-là n'existent plus ou n'existent pas, c'est parce que certains de ces habitants ne se sentent pas tout à fait égaux en droit, comme le laissait entendre tout à l'heure Amar Eni. Sophie Baudy-Gendreau, vous avez écrit, c'était en 2003, édition de l'atelier « Police et discrimination raciale, le tabou français », dans lequel vous évoquiez, je crois, j'ai pas lu ce livre, je dois l'avouer, mais voilà, la question en tout cas des contrôles aux faciès, et c'est vrai qu'il y a eu ces derniers temps, ça fait plusieurs années que ça dure, un débat sur l'idée, est-ce qu'il faut remettre des récépissés aux personnes qui subissent des contrôles d'identité. En juin dernier, les députés ont préféré rejeter l'expérimentation qui devait être tentée en la matière. Est-ce que ça participe aussi du fait que certains habitants se sentent en zone de non-droit, c'est-à-dire se sentent discriminés devant la loi parce que inégaux par rapport aux autres citoyens français?
Certainement, mais le vécu est très différent. Regardez, il y a eu ces expériences passionnantes qui ont été faites dans les gares parisiennes il y a 2 ans, et où on a vu que les policiers arrêtaient moins sur la question de la couleur de la peau que sur la question de l'apparence, en particulier l'apparence jeune, et que, mais comme c'était les minorités visibles qui s'habillaient toujours jeunes, ils étaient plus arrêtés que les autres, et que dans les interviews après, ils avaient toujours dit qu'ils avaient été traités avec déférence par les policiers, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où la brutalité de l'interpellation est ce qui humilie le plus les personnes arrêtées, et New York par exemple paye entre 30 millions de dollars par an pour les plaintes pour avoir été si maltraité par la police. Bon, on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'il y a encore une certaine civilité, même si, quand on est arrêté 10 fois de suite par quelqu'un qui vous appelle par votre nom et qui vous demande vos papiers, c'est totalement humiliant.
Est-ce que c'est à ce phénomène que vous pensiez tout à l'heure, Marini, quand vous disiez que certains citoyens dans les quartiers n'ont pas les mêmes droits que les autres ?
Il y a le rapport avec la police. Les rapports avec la police, c'est une certitude, ça. Des jeunes gens aussi qui vont être arrêtés sur parce qu'ils vont être en mandat de dépôt pour parce que ils, peut-être on a, peut-être qu'on imagine qu'ils vont qu'ils savent des choses et qu'ils ne le disent pas, mais c'est pas tellement ça. Je pense plus particulièrement à des gens par exemple qui ont commis des actes et qui le soir même vont être lâchés par exemple là-dedans et que les habitants ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné ils vivent, c'est cela qu'ils considèrent violent. Par exemple, il y a des villes où à un moment donné le taux de chômage est tellement important, il y a des entreprises qui viennent travailler dans, mais ils n'ont pas le droit à l'emploi. Donc quand une ville a des quartiers où il y a 40% de chômage et puis que on investit ailleurs que pour l'emploi, c'est la même chose pour l'école. Donc c'est en ce sens-là où je trouvais que la force, le service public n'était plus, garantissait plus une réponse aux habitants. C'est en ce sens-là que je pense qu'il n'y a plus de droit.
C'est dire si ça demande des réponses globales et non pas uniquement sur un seul aspect des choses. J'ai pas eu le temps de parler des zones de sécurité prioritaires qui avaient été créées en septembre 2012. Il y en a 80 aujourd'hui en France. Je vous aurais bien demandé où ça en était parce que je suis allé sur le site du gouvernement et la dernière mise à jour date de mars 2015. Donc, est-ce qu'il s'est passé des choses ou pas depuis? Il n'y a plus rien dessus en tout cas aujourd'hui. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Sophie Baudigendreau, Amar Henny et Didier Perra, discussion que vous pourrez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez en allant sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Vous pouvez également télécharger l'émission pendant un an, la commenter sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Baer, Isolte Sicard. Émission réalisée par Anne-Laure Chanel avec à la prise de son Jean-Guilain Meige. Demain, comment enseigner le doute sans tomber dans le relativisme? Nous parlerons école à nouveau.